de l'ordre dans le concile de Trente. Ce que nous avions commencé la dernière fois, sacrifice et sacerdoce ont été signés ensemble par la disposition de Dieu que l'un et l'autre ont existé sous les deux lois. Comme dans le Nouveau Testament, l'Église catholique a reçu de l'institution du Seigneur le saint sacrifice visible de l'Eucharistie, on doit aussi reconnaître qu'il y a en elle un sacerdoce nouveau, visible et extérieur. Donc voyez bien comment nous devons poser ce mystère du sacerdoce comme un sacrement. Nous le posons à partir de l'Eucharistie. C'est ce que le Saint-Père du reste a repris dans sa lettre il y a 2 ans au prêtre, le jeudi saint. Il a repris exactement le même raisonnement. Ce qui veut dire que le Concile de Trente est actuel. Il n'est pas passé sur ce domaine-là. Et que c'est vraiment de cette manière-là qu'on doit montrer ce que représente le mystère du sacerdoce. C'est par le point de vue de l'Eucharistie. Donc, comme dans le Nouveau Testament, l'Église catholique a reçu de l'institution du Seigneur le Saint Sacrifice visible de l'Eucharistie, on doit aussi reconnaître qu'il y a en elle un sacerdoce nouveau, visible et extérieur. Vous voyez que si on supprime le sacrifice, on supprime le sacerdoce. Si on ne regarde dans le sacrement de l'Eucharistie que le point de vue de la présence, on supprime le sacerdoce. C'est par le point de vue du sacrifice que l'on voit ce que représente le sacerdoce. On doit aussi reconnaître qu'il y a en elle un sacerdoce nouveau, visible et extérieur, dans lequel le sacerdoce ancien a été changé. Ce sacerdoce a été institué par ce même Seigneur, notre Sauveur. Les apôtres et leurs successeurs dans le sacerdoce ont reçu le pouvoir de consacrer, d'offrir et de distribuer son corps et son sang, ainsi que celui de remettre ou de retenir les péchés. Les saintes lettres le montrent et la tradition de l'Église l'a toujours enseigné. C'est un texte très important, vous voyez. Bien, puisque c'est le texte de l'enseignement de l'Église pour nous faire comprendre ce que représente le sacerdoce, le sacrement du sacerdoce. C'est le sacrement, c'est le sacerdoce ministériel que nous devons comprendre à partir de l'Eucharistie et à partir de l'Eucharistie en tant qu'il est un sacrifice. C'est ça que nous devons essayer de saisir, hein, et bien comprendre alors ce que représente ce pouvoir nouveau qui a été donné à l'Église. Ce pouvoir nouveau qui a été donné à l'Église qui, de fait, est pour réaliser ce sacrifice visible, extérieur, ce sacrifice visible de l'Eucharistie, qui est le sacrifice de Jésus, le sacrifice de la croix, qui est repris sous un mode sacrement. Nous avons vu ce que c'est ce mode sacramentel, nous n'avons pas besoin d'y revenir. C'est bien le sacrifice sacramentel de l'Eucharistie qui nous donne l'intelligence du sacerdoce. Ce que le pape nous a dit et redit, le pape actuel, que c'est vraiment cela qui donne la signification du sacerdoce. Je ne peux pas comprendre le sacerdoce ministériel, sacramentel, en dehors de l'Eucharistie. Je ne le comprends pas par le point de vue de la parole. Je le comprends par le point de vue du sacrifice eucharistique. C'est le sacrifice eucharistique qui donne l'intelligence de ce sacerdoce, qui nous fait comprendre ce qu'est ce sacerdoce. Et on remonte, c'est très nettement dit, avec beaucoup de précision. Alors, il s'agit de comprendre, hein. Parce que c'est affirmé que je remonte à partir du mystère de l'Eucharistie qui implique un sacrifice, c'est cela qui est la première affirmation. Le théologien doit essayer de comprendre l'ordre qui existe dans les mystères. C'est la première intelligibilité qu'il donne. Ça, c'est très important. la clé de voûte de tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Et c'est l'Eucharistie comme sacrifice. Alors, si vous supprimez cette clé de voûte, c'est très bien ce qui arrive. Tout le reste des grammes. Alors, il faut saisir ce que représente cette clé de voûte. Vous voyez, c'est ordonner ce qui nous est révélé. Parce que si vous ne regardez pas cet ordre, vous n'aurez pas d'intelligibilité de la chose. La clé de voûte, c'est donc l'Eucharistie comme sacrifice. Vous voyez, c'est pour ça que l'Église insiste tellement. Et que quand on oublie ça, on ne peut plus comprendre le reste. Alors, l'Eucharistie, clé de voûte. L'Eucharistie comme sacrifice, clé de voûte. Selon un mode sacramentel. Nous avons vu ce que c'était ce mode sacramentel, c'était toute la première partie de ce cours, hein, la sacramentalité. Et la sacramentalité dans l'ordre du sacrifice. Ça qui est particulièrement intéressant à voir. La sacramentalité dans l'ordre du sacrifice. Donc c'est une sacramentalité dans l'ordre d'un acte. Le sacrifice est un acte, une opération. Une opération qui, pour se réaliser de cette manière-là, implique nécessairement une personne. Puisque le sacrifice du Christ est un sacrifice volontaire, et un sacrifice dans lequel le Christ lui-même est la victime. Le sacrifice de la croix. Dans le sacrifice de la croix, Jésus s'offre, et s'offre lui-même volontairement. Ce sacrifice a donc ce caractère particulier d'être un sacrifice d'offrande de sa propre vie, volontaire, et en même temps que ce soit lui-même. C'est pour ça que ce sacrifice implique la présence réelle. Il ne peut pas y avoir de sacrifice sans cette présence réelle. Les deux se tiennent. Mais c'est le sacrifice, voyez, qui est la lumière qui fait comprendre le reste. Donc le sacrifice exige la présence réelle. Ce n'est pas la présence réelle qui explique le sacrifice. C'est le sacrifice qui explique la présence réelle. Parce que ce sacrifice est donné selon un mode sacramentel. Il exige la présence réelle. Une présence donnée sous le mode particulier d'être une nourriture. Ce que nous avons essayé de comprendre à propos de l'Eucharistie. Et tout ça, c'est le mystère du sacrifice qui en donne l'intelligence. Nous voyons maintenant comment ce sacrifice appelle le sacerdoce du Christ. Parce que ce sacrifice, c'est le sacrifice du Christ, implique donc le sacerdoce, c'est le sacerdoce du Christ, mais ce sacerdoce du Christ, Jésus a voulu qu'il surabonde dans des personnes que le Christ lui-même a choisies. C'est lui qui choisit en premier lieu. On dit bien que c'est le peuple de Dieu qui choisit. C'est ce qu'on se dit aujourd'hui, on insiste énormément là-dessus. C'est vrai, parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est mis ça. Mais faisons attention. Ça, c'est le sacerdoce lévitique, ancien. Dans le sacerdoce nouveau, le sacerdoce du Christ, c'est le Christ qui choisit. Le peuple de Dieu ne donne pas le sacrifice, ne donne pas le sacerdoce. Il peut indiquer, mais il ne donne pas. Donc, le choix du peuple est secondaire. Jamais l'oublier. Aujourd'hui, on le met très en lumière. Et quelquefois, on risque par là de fausser. Parce que c'est le Christ qui choisit. Chaque prêtre est choisi par le Christ. Comme chaque fidèle, par le sacrement de baptême, nous le verrons, est choisi par le Christ. Mais si je suis l'ordre sacramentel, il faut bien saisir. Parce que c'est quand même important à saisir cet ordre-là, à l'intérieur de cet ordre du sacrement. L'Eucharistie, sacrifice. Oui, c'est premier. C'est pas la communion qui est première. Le sacrifice va se poursuivre dans l'aspect de la communion. La communion est seconde. Et le sacrifice va se prolonger dans le sacerdoce. Donc, deux prolongements. Le peuple de Dieu, il est pour le peuple de Dieu. Et donc, ce sacrifice donne Jésus comme nourriture, comme pain. nous avons vu, je ne reviens plus là-dessus. Ici, nous essayons de comprendre cet autre aspect. Ce sacrifice implique le sacerdoce. Et ce sacerdoce implique le choix du Christ. Chacun est choisi par le Christ. C'est le Christ qui se donne, c'est le Christ qui choisit. Et il est directement choisi par le Christ. Et nous verrons ensuite comment ce sacerdoce et ce sacrifice va impliquer le baptême, qui est le choix aussi du Christ, sur chaque fidèle. C'est toujours le Christ qui choisit, tous les sacrements dépendent du Christ, et ne font pas nombre avec le choix du Christ. Ce qui est important, c'est de saisir, à travers chacun des sacrements, le choix actuel du Christ. Regardez dans l'Écriture, hein, nous voyons bien un passage qui est quand même très important, surtout dans l'Évangile de Saint Jean. Avant sa vie apostolique, Jésus choisit ses disciples. Donc, c'est quelque chose de très important, le choix du Christ à travers les sacrements. Il ne faut pas que les sacrements, vous voyez, mettent comme un intermédiaire entre le choix du Christ et nous. Le choix du Christ est direct. Et les sacrements manifestent ce choix et réalise ce choix. Mais le choix du Christ est direct. C'est quand même très important. Autrement, il n'y aurait pas de sacrement. Les sacrements proviennent de Jésus immolé qui nous choisit. Donc, je prends exprès ces deux choix. Vous voyez que selon l'ordre de sagesse, le sacerdoce, c'est quand même très curieux, est mis avant le baptême. Il faut bien. Il y a un ordre génétique et un ordre de perfection. Selon l'ordre génétique, le baptême est avant. Selon l'ordre de perfection, le sacerdoce est avant. C'est ce que les chrétiens sentent spontanément, mais les prêtres aujourd'hui ne veulent plus faire de ça. C'est pour ça que j'insiste. Parce que selon le climat d'aujourd'hui, on ne veut plus. On met en lumière le baptême comme ça. Mais non, regardez bien, il y a un choix particulier du Christ sur le prêtre. Il y a un choix spécial du Christ, un choix d'amour. Un choix de surabondance d'amour sur le prêtre, qui est lié au sacrifice. Jésus veut que ce choix du prêtre soit lié au sacrifice. Bon. Comprenons d'autre part que cet ordre de sagesse que nous essayons de comprendre, l'ordre de sagesse qui est Jésus législateur. C'est Jésus législateur. Jésus instituant le sacrement de l'Eucharistie. C'est Jésus législateur. Jésus législateur, c'est l'ordre de la sagesse du Père. Parce qu'à la croix, il est Père. Et donc, c'est un ordre de sagesse qui est au niveau du Père. C'est la sagesse du Père qui nous est transmise à travers Jésus. Ce n'est pas une autre sagesse. C'est la sagesse du Père. Et je crois ça important. Nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est important de comprendre cela. C'est un ordre de sagesse qui est l'ordre du Père. Un ordre de sagesse qui éclaire tout le mystère de l'Église, puisque tous les sacrements éclairent tout le mystère de l'Église. Je ne peux comprendre l'ordre qui existe dans l'Église qu'à travers les sacrements. Ce n'est pas le mystère de la parole qui me fait comprendre l'ordre de l'Église. C'est les sacrements. Les sacrements sont des signes pratiques, et c'est des signes efficaces, qui nous font donc comprendre la structure de l'Église. Si je veux comprendre la structure de l'Église, ce n'est pas par la parole. La parole est claire, un enseignement, c'est très beau, c'est merveilleux. Regardez, mais c'est les sacrements qui me font comprendre la structure profonde de l'Église. Et donc c'est très important de saisir cet ordre de sagesse de Jésus législateur. Donc vous voyez que Jésus aurait pu faire que le sacrifice se réalise autrement que par un sacerdoce sacramentel ministériel. Faire autrement. Pourquoi? Parce que nous voyons très bien que le sacrifice relève directement de Jésus. C'est sûr qu'il relève directement de Jésus. Il n'a pas besoin du prêtre. Jésus veut que ce soit par le prêtre. Mais il n'a pas besoin. Donc il faut bien comprendre qu'il y a là un acte de liberté du législateur. Vous voyez, la conception protestante, c'est toujours les hérésies. Pour tester, il faut que les hérésies existent pour comprendre mieux l'ordre de la vérité. C'est intéressant de voir la conception. C'est que l'influence de l'Ancien Testament, on le sait très bien, le protestantisme a subi très très fort l'influence de l'Ancien Testament, n'a pas vu avec suffisamment de netteté ce qu'il y avait de tout à fait nouveau à l'ordre chrétien. Et on retrouve les mêmes tentations maintenant. Parce qu'il y a un retour à l'Ancien Testament depuis 50 ans qui est très fort. Il faut bien le voir, c'est très intéressant, c'est pas du tout, il ne faut pas s'opposer à ça, mais il faut le faire avec intelligence. Il y a un retour à l'Ancien Testament depuis 50 ans qui est très très fort, c'est bien moins avant. Tandis qu'il y a un retour, et ce retour à l'Ancien Testament peut très bien nous remettre beaucoup plus proche des protestants et faire que on voit bien, on n'a pas suffisamment compris, alors que le Concile de Trente, l'Église ne cesse de dire que le Concile de Trente reste pour nous vérité de foi. Il reste vérité de foi. Donc il s'agit de comprendre, il peut y avoir, comme dit Daniel Ross, un aspect un peu plus étriqué du mystère de l'Église par le Concile de Trente, parce que le Concile de Trente s'est mis en opposition vis-à-vis du protestantisme, et par le fait même, tout ce qui se construit en opposition est toujours un peu plus étriqué que lors de la sagesse de Dieu. C'est très vrai, ça c'est très très vrai. Et c'est pour ça qu'un concile complète un autre concile. Et on ne peut pas dire qu'un concile corrige un autre concile. Ça c'est faux de dire ça. Ça c'est la pensée dialectique. Un concile est claire, complète. Et c'est vrai, le Vatican II, à ce point de vue-là, a une autre dimension que le Concile de Trente. Une autre dimension dans l'ordre de l'extension, c'est bien évident, il y a un autre aspect, c'est tout à fait différent comme perspective. Tandis que le Concile de Trente précise certaines choses qui ont été abandonnées. Alors, le protestantisme consiste à dire que le sacré, le cas, de la présence. Au sens strict, le sacrifice, c'est un mémorial. C'est le Christ lui-même qui se rend présent grâce à la foi de l'Assemblée. C'est l'Assemblée unie qui, dans sa foi, fait venir le Christ. Mais c'est très proche de cette fameuse parole de notre Seigneur, quand plusieurs sont en prière, en mon nom, je suis présent au milieu. Et c'est une des phrases qu'on retrouve souvent aujourd'hui en disant qu'est-ce que la présence eucharistique ajoute plus à cette présence mystique de Jésus quand plusieurs fidèles prient et Jésus est au milieu. Et nous avons vu comment la présence eucharistique ajoute quelque chose à la présence mystique, ajoute le particulier, mais il faut en même temps ajouter tout de suite que la présence eucharistique est ordonnée à la présence mystique. Bien évident. La présence mystique, c'est ce qui achève tout. Mais la présence eucharistique va apporter un mode particulier. Eh bien, ici, il faut comprendre que Jésus aurait pu très bien se donner à nous dans l'Eucharistie sans qu'il y ait de sacerdoce ministériel. Autrement dit, il n'y a pas un ordre de nécessité logique et scientifique entre le sacerdoce du Christ et le sacerdoce, entre l'Eucharistie sacrifice et le sacerdoce. Il n'y a pas de nécessité absolue. Donc, vous ne pouvez pas prouver la nécessité du sacerdoce ministériel à partir du mystère de l'Eucharistie comme sacrifice. Dieu aurait pu faire un autre homme. Et dans l'Ancien Testament, la manne était donnée directement. Ce n'était pas les Lévites. Ça aurait pu être par l'intermédiaire des Lévites. Ce n'est pas les Lévites. La manne était donnée directement à tous les fidèles. Et tous les fidèles recevaient la manne. Alors si je conçois l'Eucharistie trop dans la perspective de l'Ancien Testament, je dirais, il n'y a pas de pardon. Il suffit de prier, il suffit d'avoir la foi, et grâce à cette foi, Jésus est présent. Jésus a voulu, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a voulu instituer un ordre particulier qui est l'ordre sacré du sacerdoce. Il a voulu cet ordre du sacerdoce. Et ceci, puisqu'il n'y a pas de nécessité logique, ceci montre donc un acte d'amour particulier du Christ. C'est ça qui m'intéresse, voyez. Quand la nécessité logique, c'est très très bien, mais quand elle n'existe pas, je suis obligé de faire appel à la cause première. Et la cause première, c'est Jésus. C'est Jésus législateur, la cause première des sacrements. C'est Jésus législateur. Et c'est Jésus législateur de cet ordre nouveau, particulier, qui est le point de vue du sacerdoce. Jésus a voulu le sacerdoce. Pourquoi l'a-t-il voulu? Pourquoi l'a-t-il voulu? Pourquoi a-t-il voulu qu'il y ait quelque chose de particulier? Qu'ajoute, si vous voulez, qu'ajoute le sacerdoce à cette, au mystère de l'Église, à cet ordre de sagesse voulu par le Christ? Je crois que nous devons dire que c'est toujours pour exprimer la surabondance de l'amour. Les sacrements sont les sacrements de la surabondance de l'amour, puisqu'ils ne sont pas de nécessité logique. Puisque ce n'est pas les sacrements qui nous sauvent, mais c'est Jésus crucifié qui nous sauve. C'est Jésus sauveur. Et les sacrements nous donnent en surabondance le mystère de la rédemption. Donc, les sacrements sont faits pour nous faire comprendre, dans le mystère de la rédemption, la surabondance. Pour nous faire comprendre que le mystère de la rédemption est un mystère de surabondance d'amour. L'Eucharistie, c'est très net, et le sacerdoce également. Alors, quelle est cette surabondance particulière d'amour? C'est que Jésus veut nous faire comprendre l'amitié, la confiance qu'il a dans les hommes, puisqu'il veut que certains hommes qu'il a choisis puissent continuer ses gestes, puissent continuer le mystère de l'Eucharistie. Donc, c'est une surabondance d'amour à l'égard de certains hommes. Vous voyez la différence? L'Eucharistie est donnée à tout le peuple chrétien. Il est donné aux prêtres comme à tout le peuple chrétien. Et l'Eucharistie est quelquefois donnée plus au peuple chrétien qu'aux prêtres. Si celui qui reçoit l'Eucharistie a un désir plus grand que le prêtre, parce que le prêtre, il s'habitue, et le peuple chrétien peut s'habituer, mais s'il est très fervent, il ne s'habitue pas. Et si le prêtre n'est pas fervent, il s'habitue. Alors il deviendra un fonctionnaire et dira la messe en fonctionnaire. S'il dit la messe en fonctionnaire, le peuple chrétien qui assiste à la messe reçoit l'Eucharistie avec un amour beaucoup plus grand. Et donc s'il reçoit l'Eucharistie avec un amour beaucoup plus grand, il reçoit, je dirais, l'Eucharistie est premièrement pour lui. L'Eucharistie est donnée en premier lieu à celui qui a la plus grande soif. C'est pour ça que je vous avais dit, l'Eucharistie est donnée en premier lieu pour Marie. Marie qui a eu la plus grande soif de l'Eucharistie. Plus grande que Jean, plus grande que Pierre, plus grande que Thomas. Et que de tous les apôtres. Donc, il est donné en premier lieu. L'Eucharistie est donné en premier lieu pour celui qui a la plus grande soif. La plus grande soif de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Et il est donné à tous. Le sacerdoce est donné à certains. Pas donné à tous. Alors, c'est là où il faudrait poser le problème, pourquoi pas le sacerdoce aux femmes? Vous voyez, ce serait là. Et la dernière raison, c'est le bon plaisir du Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas parce que la femme est moins intelligente, c'est pas parce que la femme bavarde plus, c'est pas parce que s'il y a des hommes qui bavardent quelquefois plus que des femmes. Donc c'est pas la raison, n'est-ce pas? La seule raison, c'est la volonté du Christ. Alors on peut chercher des raisons de convenance, c'est bien évident, on peut rechercher des raisons de convenance, mais la seule raison, c'est celle-là. Et c'est dans cette lumière-là qu'on doit chercher les raisons de convenance, pas à partir du bas. C'est-à-dire pas à partir de l'homme et de la femme. C'est à partir du Christ.
Ça, c'est très important. Parce qu'il faut fermer le bec aux gens qui disent l'inverse. Hein. Il faut leur dire que leur raison, ça ne tient pas et qu'ils n'ont pas posé le problème réellement. Vous voyez, de nouveau, c'est la question de l'ordre des mystères qui nous aide à donner la vraie solution. Si vous ne voyez pas l'ordre des mystères, vous ne pouvez pas donner les vraies solutions. Et c'est pour ça que j'insiste que c'est un choix particulier, personnel du Christ. Le prêtre est choisi par le Christ pour continuer son geste. Chacun des apôtres a été choisi par le Christ pour continuer son geste de législateur, c'est-à-dire son geste de consacrer le pain et le vin. Réaliser le sacrifice eucharistique et le réaliser comme Jésus a voulu le réaliser, selon les intentions mêmes du Christ, c'est-à-dire de faire que son sacrifice soit actuel pour nous et que nous comprenions que le sacrifice du Christ est toujours présent dans l'Église et que le sacrifice du Christ est donné à chaque fidèle tous les jours, s'il le veut. Et plusieurs fois par jour, s'il le veut. Que le sacrifice du Christ, parce qu'il est dans l'éternité, est coextensible à toute la succession du temps. Parce qu'il est dans l'éternité, est coextensible à toute la diversité des lieux. Il est présent dans l'Église. L'Église est enveloppée, elle est portée par le sacrifice du Christ. L'Église naît du sacrifice du Christ, mais l'Église ne sort pas du sacrifice du Christ. Donc elle est portée par le sacrifice du Christ. Et elle est l'Église du sacrifice du Christ. Parce qu'elle est l'Église de la croix. Et l'Eucharistie est là pour nous en faire donner le sens. C'est pour ça que l'Église n'est parfaitement l'Église que là où il y a le sacrifice eucharistique. Quand il n'y a pas le sacrifice eucharistique, l'Église n'est que dans un état d'imperfection, c'est-à-dire dans un état de disposition et d'attente. Tandis que dès qu'il y a le sacrifice eucharistique, l'Église est parfaite. L'Assemblée, vous voyez, l'Église comme Assemblée n'est parfaite que là où l'Eucharistie se réalise. C'est là où l'Église est dans un état de perfection parce qu'elle est unie au sacrifice du Christ. Elle est unie actuellement au sacrifice du Christ. Donc elle vit pleinement ce mystère. Jésus a voulu donc l'institution du sacerdoce pour montrer sa confiance aux hommes. C'est la raison que donne saint Augustin. Et je trouve ça très beau. C'est pour montrer sa confiance aux hommes. Et saint Augustin nous dit, c'est cela qui nous fait le mieux comprendre le caractère divin de l'Église. Parce que c'est une folie d'avoir eu cette confiance vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis des pécheurs, de pauvres hommes pécheurs vont réaliser l'acte le plus pur qui soit, le plus étonnant qui soit, le sacrifice de Christ. Et ils le réalisent au nom du Christ, in persona Christi. Donc ils le réalisent dans la personne du Christ. Par le fait même, il y a une confiance absolue du Christ à l'égard du prêtre, à l'égard de l'homme qu'il a choisi comme prêtre. Il lui remet son secret, son testament. C'est son testament que le prêtre réalise. Qu'il réalise dans la personne du Christ. Ce n'est pas quelque chose d'à côté, ce n'est pas un dérivé, ce n'est pas une participation, c'est une unité. C'est ça qui est extraordinaire, parce que il n'y a pas, ça ne fait pas nombre. Le mystère de la sacramentalité, nous l'avons vu, le mystère de la sacramentalité n'ajoute rien et ne fait pas nombre. Ce n'est pas un dérivé, vous voyez. Ce n'est pas comme une création qui est un dérivé. L'être participé n'est pas l'être de Dieu. Tandis que l'être sacramentel, il ne s'ajoute pas à l'acte du Christ, à la scène, il ne s'ajoute pas, il n'est pas un dérivé. Et il fait que le mystère de la scène est vécu, actuellement, en plénitude. Pas d'une façon secondaire, mais il est vécu, substantiellement et réellement. Pour le croyant, c'est le même. C'est une autre modalité, mais c'est le même. La modalité sacramentelle a ceci de tout à fait particulier. que de fait, c'est pas un dérivé, c'est quelque chose qui est donné selon un autre mode et qui nous fait vivre le même mystère substantiellement. Le mystère de la croix qui est donné. Alors, le mystère de la croix, c'est Jésus qui s'offre. Et Jésus veut réaliser ce mystère à travers des hommes qu'il a choisis, à qui il donne un pouvoir. Un pouvoir instrumental dans l'ordre sacramentel. Alors ceci, c'est précisé par l'Église. Hein, vous comprenez bien. Ce que l'Église reçoit, c'est de comprendre que la parole de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, c'est de confier aux apôtres l'Eucharistie, de le confier dans un acte d'amour, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis, et c'est pour ça qu'on reçoit les secrets. Et le secret par excellence du Christ, c'est son testament. Ça, ça va très loin. C'est le secret par excellence, puisque c'est le Christ lui-même. L'ami, c'est le secret le plus grand. Tous les autres secrets sont inférieurs à l'ami. Le secret par excellence, c'est l'ami qui se donne. Et qui se donne de cette manière, sous cette forme d'un sacrement, sous cette forme d'un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice qui nous sauve. Dans un acte qui nous sauve. Dans un acte où Jésus nous attire à lui et veut nous transformer en lui. Pour que nous soyons un avec lui. Un dans l'amour et dans la lumière. Donc, c'est vraiment l'acte de la plus grande confiance. C'est l'acte de la plus grande confiance. Jésus ne pouvait pas inventer un acte où il exprimait davantage sa confiance, où il exprimait davantage son amitié. Il se livre au prêtre, puisque le prêtre pourra lui-même, en réalisant les intentions de l'Église, faire que Jésus se donne comme il s'est donné à la croix. Mettez en parallèle, hein, mettez en parallèle comme analogie, parce que je crois que c'est important. Je vous ai déjà dit que l'alliance fondamentale au niveau de la création, c'est la procréation. Dieu laisse à l'homme l'initiative de faire que l'espèce humaine continue dans l'humanité. C'est Dieu qui laisse l'initiative à l'homme. C'est donc Dieu qui laisse passer devant l'homme. C'est le Créateur qui laisse passer devant l'homme pour que la vie puisse continuer dans notre univers, la vie de l'homme. L'espèce humaine. Dieu répond à l'initiative de l'homme. Dans la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne, le cœur de cette alliance, c'est l'Eucharistie. Et cette Eucharistie est liée au sacerdoce. Vous voyez comment le prêtre va être associé à ce mystère du sacrement d'amour, à cette alliance nouvelle. C'est le prêtre à qui Jésus laisse l'initiative de l'alliance nouvelle. Puisque l'alliance nouvelle, c'est dans l'Eucharistie, et Jésus laisse au prêtre l'initiative. Vous voyez, l'analogie, hein, c'est très beau pour essayer de comprendre comment, dans la nouvelle alliance, la paternité nouvelle, c'est le prêtre. C'est vraiment une paternité nouvelle. Parce que Jésus à la croix est Père. C'est le Père qui donne le pain. Et c'est Jésus qui se donne comme pain. Donc c'est le geste du Père. C'est important de comprendre cela. Alors, on peut dire que le sacerdoce, l'ordre sacerdotal, Jésus a voulu l'instituer pour nous faire comprendre que l'alliance nouvelle Il en remet l'initiative aux hommes et lui répondra. Quand un prêtre dit la messe, Jésus le laisse passer devant lui. Il le laisse passer devant lui. Et Jésus répond à l'initiative qu'il a prise de dire la messe. Et Jésus répond pleinement à son initiative. Il faut y penser cela. Pour remercier Jésus de sa délicatesse, de la délicatesse de son amour. Les fidèles peuvent y penser aussi bien. C'est tout le monde qui doit y penser. Parce que ça, c'est la nouvelle alliance. C'est ce qui structure la nouvelle alliance. C'est l'Eucharistie qui est le sommet de la nouvelle alliance. Dans son pèlerinage terrestre. Or, dans cette nouvelle alliance, Jésus veut que ce soit par le sacerdoce que se réalise ce mystère de l'Eucharistie. Et donc c'est Jésus qui veut que des hommes qu'il a choisis, à qui il a donné un pouvoir instrumental, mais un pouvoir instrumental confié à des amis, qu'il leur laisse l'initiative. C'est pour ça que c'est important de saisir ce que c'est que ce pouvoir instrumental. Il faut faire attention, c'est un pouvoir instrumental dans lequel il ne faut pas prendre une seule analogie, l'instrument. Ce serait faux. Il faut prendre l'amitié aussi. Autrement dit, l'homme a le pouvoir, comme cause seconde, d'être source de vie dans la procréation. Il est père. Et son épouse est mère. Donc il est cause seconde. Pas seulement instrument. Bien, il y a cette analogie-là dont on doit se servir. On ne s'en sert pas beaucoup. On devrait se servir de ça pour bien nous faire comprendre. Parce qu'il y a une analogie réelle entre les deux. Alors, il faut comprendre comment le pouvoir sacerdotal du prêtre est à la fois pouvoir instrumental, c'est vrai. Il agit in persona Christi. Et c'est peut-être ça, vous voyez, qui va nous permettre de comprendre ce que le Saint-Père a mis très en lumière en insistant sur in persona Christi du Concile de Trente. En disant, ne disons pas seulement qu'il agit au nom d'eux, comme un instrument. Un instrument, on agit de la part d'eux. Ce n'est pas suffisant. Donc le Saint-Père, sans le dire, dit, il faut appel à une autre analogie. Pour les théologiens, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il faut faire appel à une autre analogie. Tout mystère, pour le serrer de plus près, il faut toujours prendre deux analogies. Il faut saisir les deux vraies analogies. Ça, c'est le rôle du théologien. Le théologien n'est théologien que quand il saisit les deux analogies qui permettent de serrer le plus possible le mystère. La première analogie, elle est classique. Le pouvoir sacerdotal n'est pas un pouvoir instrumental. Ça, c'est sûr. Le prêtre agit en référence au Christ. Le prêtre agit en dépendance du Christ par l'intermédiaire de l'Église. Il ne s'est pas donné à lui-même ce pouvoir. Il ne l'a pas, il l'a reçu. Il l'a reçu et il en vit toujours comme un pouvoir reçu, donc instrumental. Il n'agit pas en cause seconde, c'est bien évident. Il agit comme un instrument. Mais cependant, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Il y a quelque chose de particulier dans le sacerdoce, dans ce pouvoir instrumental, qui ne s'explique pas uniquement par l'instrumentalité, qui doit s'expliquer autrement. Alors je prends l'autre analogie, l'analogie de la paternité. Le sacerdoce, et c'est cela qu'on a laissé complètement tomber. Voilà, laissé complètement tomber, c'est pour ça que les prêtres ne veulent plus être appelés pères. S'ils comprenaient, ils comprendraient qu'il y a là quelque chose de très important. La tradition a dit ça. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, et Jésus en instituant l'Eucharistie, il est père, il donne le pain. C'est le père qui donne le pain. Pas l'oublier.
analogie. La paternité, c'est la... on est cause seconde. On est source de vie. Alors évidemment, comprenons bien, c'est analogiquement qu'il faut comprendre. C'est une paternité divine, in persona Christi. Et c'est pour ça que in persona, la paternité, c'est justement la personne. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose qu'il faut faire intervenir, c'est que le prêtre, en consacrant, agit in persona Christi, Jésus s'efface devant lui. Il le fait passer devant, puisque c'est lui qui prend l'initiative. Et il est père. Vous ne pouvez pas être père en étant une pure cause instrumentale. En étant une pure cause instrumentale, vous devenez un fonctionnaire. Un instrument. Très bien, un instrument pour en apprendre un autre. Après tout. Ce que disent certains, oh, il suffit d'un prêtre, ça n'a pas d'importance, n'importe quel. Non, pas du tout. Il est père. Et c'est vrai qu'il est instrument. Et parce qu'il est instrument, il doit s'effacer tout le temps. Il doit tout le temps découvrir le point de vue de la pauvreté. La spiritualité sacerdotale est une spiritualité de pauvreté. Parce que c'est un instrument. C'est dans ce sens-là qu'on est vraiment prêtre que si, vous voyez, si on est totalement pauvre. Et c'est très gênant de voir un prêtre qui n'est pas pauvre. Qui n'est pas pauvre en tant que prêtre. C'est-à-dire qu'il exerce un certain accaparement sur ses œuvres et encore plus sur ses filotées. Alors, il y a un accaparement terrible. Ce sont mes filotées. Je me souviens un bon père qui disait, oui, que voulez-vous, j'ai autant de filotées que de grains du rosaire. Alors c'est merveilleux. Enfin, mais, alors à chaque grain du rosaire, c'était tel filoté. Je ne sais pas s'il ajoutait ça. Ave Maria. Jacqueline. C'était en même temps que Marie, il saluait Jacqueline. Et il la prenait. Alors au chaque grain, vous voyez, l'appartenance. La pauvreté fait qu'on est là comme un instrument du Christ. Mais en même temps, et c'est ça qui est très délicat, en même temps, il y a l'analogie de la paternité. Et si on ne le met pas, on ne voit pas jusqu'au bout ce que représente in persona Christi. L'analogie de la paternité fait appel à la personne. Ce qui fait qu'on ne peut pas changer comme on change un fonctionnaire. Non. Il y a un lien personnel qui relève de cet amour du Christ. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et ce lien personnel, il est inscrit dans le pouvoir sacerdotal, dans ce pouvoir instrumental. C'est un pouvoir instrumental. C'est pour ça que pas un pur instrument, c'est un pouvoir, une autorité. Le prêtre a autorité. Et il a une autorité paternelle. Alors, ça c'est les deux aspects sous lesquels nous devons regarder ce pouvoir instrumental. Et ceci parce que justement c'est le fruit d'un amour de prédilection et de choix. C'est lui qui nous a choisis. Vous comprenez que si c'était uniquement un pouvoir instrumental, ça ne relèverait pas d'un amour de choix, d'un amour de prédilection. Ça relèverait tout simplement au point de vue utilitaire. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'instruments, de fonctionnaires, voulez-vous. Alors j'ai besoin d'un certain nombre, il y aura un nombre donné de prêtres, hein, et qui seraient les fonctionnaires de l'Église, le personnel. Alors il y aurait le personnel de l'Église, et le personnel de l'Église, ce serait justement tous ces fonctionnaires. Et alors là, ça ne relève pas d'un choix, c'est tout simplement les capacités. Hein. Celui qui choisit les gens compétents. Et je choisis les gens compétents, non pas du tout d'un choix d'amour, mais d'un choix qui est un choix qui est mesuré par le point de vue de l'efficacité. Le choix du Christ n'est pas un choix d'efficacité, c'est un choix d'amour. Et c'est pour ça que je ne peux pas regarder dans le pouvoir instrumental du prêtre uniquement l'aspect instrumental. Il y a plus. Puisque l'amour de Dieu est source de l'effet qu'il donne. Dans la mesure même où Dieu m'aime,
je suis aimable à Dieu. L'amabilité par rapport à Dieu relève de l'amour de Dieu. Donc, le choix du Christ sur le prêtre, ce choix d'amour du Christ sur le prêtre, fait que dans le prêtre, il n'y a pas qu'un pouvoir instrumental. Autrement, ce ne serait plus un choix d'amour. Et ce ne serait plus un choix d'amour de surabondance. C'est un choix d'amour de surabondance. Donc, les deux analogies, retenez bien cela. Alors, ceci nous aide à comprendre, vous voyez, ce que j'avais souligné, je crois, la dernière fois, mais je ne l'avais pas suffisamment rattaché à la source. Le prêtre bénit. La bénédiction relève de l'autorité paternelle. Et ici, de l'autorité de Dieu comme Père. Il bénit. Et la bénédiction, c'est source de fécondité. Le prêtre est source de fécondité. L'instrument comme instrument.